Les évadés du sport, édition numéro 1, il sera bien évidemment question de sport. Alors certes, parler de sport c'est une chose, on pourrait se concentrer sur la performance, le résultat, mais ça ne nous suffira pas à Radio Évasion. Parce que le sport c'est sans doute parfois un peu plus que cela et on avait envie, sur le LEM, de vous proposer d'autres regards tout en donnant la parole à des sportifs. Alors je ne serai pas tout seul pour cela, en studio nous serons avec Fred Sévaer. Bonjour Fred.
Bonjour.
Alors une fois par mois tu nous proposeras de parler de sport sous un autre regard, hein, c'est ça ?
Différents aspects, différents contours du sport, de la performance et du haut niveau, comme tu as dit, mais aussi sport santé, intégration, handisport, mais aussi des personnes du monde de la culture et de l'économie du sport.
Alors bon, en gros, parler de sport, mais pas que, tout simplement, et qui sera ton invité d'ici quelques minutes, Fred ?
Et ben on va se retrouver avec Colin Arros, qui est donc triathlète et sportif accompli aux multiples facettes.
Alors ça, c'est pour dans quelques instants. Alors évidemment, comment on pourrait parler de sport sans un retour sur l'actualité du week-end ? Ça, ce sera le travail d'Hugo Lebeuze, jeune bénévole de l'Opérec tout neuf, qui est donc adhéré à Radio Évasion cet été, qui nous fera un rapide résumé de l'actualité du week-end, l'actualité du sport. C'est parti !
Les évadés du sport sur Radio Évasion. Hugo Lebeuze.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Évasion. Vous écoutez Les évadés du sport, votre flash autour de l'actu sportive bretonne. Au programme de votre flash, un retour sur les défaites inaugurales, défi du Brest-Bretagne Handball lors de la première journée de D1 et de la Ligue des Champions, un point sur le succès de prestige de Lorient face aux champions de France Lillois en Ligue 1 de football, ainsi qu'un gros plan sur le début de saison raté du RC Vannes en Pro D2 de rugby. On démarre ce flash en évoquant les défaites concédées par le Brest-Bretagne Handball à l'occasion des deux premiers matchs de la saison. Les partenaires de Paoletta Foppa sont d'abord tombés de très haut en s'inclinant 37-31 face à un promu Bourg-de-Péage galvanisé par le prestige de son adversaire. Les joueuses de Pablo Morel ont tenté durant toute la seconde période de combler leur retard sans y parvenir. Après s'être également inclinées en Ligue des Champions à Rostov 26-24 dans un match tout aussi compliqué notamment sur le plan offensif, les championnes de France devront vite oublier ces désillusions inaugurales pour assumer leurs grandes ambitions continentales et nationales. Place au football, le FC Lorient s'est offert un succès de prestige face aux champions de France Lillois en marge de la 5e journée de Ligue 1. La victoire de 2-1 s'est dessinée à l'aube du temps additionnel grâce à un but de Terem Mofi. La prestation remarquable de l'attaquant nigérian du club de la ville aux 5 ports a permis à Lorient de valider son très grand match collectivement et son bon début de saison dans un moustoir en fusion. Les Merlus n'ont connu la défaite qu'à une seule reprise depuis le début du championnat. Parlons désormais rugby. Après avoir été tout proche de s'offrir une accession en top 14 la saison dernière, le rugby club de Vannes vit une entame de championnat chaotique. Les Morbihanais se sont inclinés 3 fois en autant de matchs depuis la reprise et prennent donc un retard considérable dans leur objectif de se mêler à la lutte pour la montée dans l'élite. Les hommes de Jean-Noël Spitzer manquent cruellement de réussite offensivement, mais aussi dans le secteur de la conquête ou de la mêlée, comme en témoigne la dernière défaite à la Rabine face à l'Aviron Bayonnais sur le score de 18-26. Au classement, le RCV occupe une 13e place bien loin des attentes placées en lui. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau flash des évadés du sport. On se retrouve bientôt sur les ondes de Radio Évasion.
Merci Hugo, et n'oublions pas le Stade Brestois qui a fait match nul à Angers, un partout. Prochain match du Stade, ce sera ce dimanche à 15h. Brest se déplace à Clermont-Ferrand. Match à l'extérieur, donc, qui sera commenté sur les antennes de Radio Évasion ce dimanche, prise antenne à 14h50. Et on sait qu'Hugo nous écoute.
Oui, bonjour Hugo d'ailleurs, si tu nous écoutes, on pense à toi.
Alors sans plus attendre, continuons les évadés du sport et découvrons ton invité, Colin Arros.
Oui, alors pour cette première, on reçoit Colin. Donc Colin Arros, sportif de haut niveau, du triathlon, trail, en passant par l'athlé. Il relouque aussi des vélos ou réalise des vidéos professionnelles via son entreprise. C'est un homme de défi, un sportif accompli et atypique. Il promène ses shorts à fleurs sur les routes et les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui avec Colin. Bonjour Colin.
Salut Fred, merci de m'avoir invité.
Alors Colin, moi pour une première question, je voulais te poser la question suivante. Comment tu te définis ou comment tu définis ton approche du sport ? en général.
Ah, intéressant, très intéressant comme question. Effectivement, il y a tellement de sports que pourquoi choisir, dans mon cas, les sports d'endurance en particulier. Je pense que ça va avec un caractère au-delà de l'aspect quel sport tu préfères, est-ce que tu préfères taper dans une balle ou courir ou faire du vélo. C'est que moi, j'aime bien faire des trucs plutôt tout seul, un peu méditatif comme ça dans la nature. Donc forcément, j'ai été attiré vers aller faire du vélo dans la nature, courir dans les chemins, et donc le triathlon, le trail, etc.
Ok, et du coup, est-ce que tu apparais comme un personnage atypique dans le monde du sport, ou il y a des gens comme toi
Je ne sais pas, moi je ne me trouve pas atypique, puisque je vis avec moi-même H24. Si, je sais que je peux paraître un peu atypique par... le fait, alors les gens qui écoutent, qui ne me connaissent pas, ne vont pas comprendre, mais le fait de mettre des shorts à fleurs en course...
Et on en parle direct, comme ça, moi, c'est clair.
Parlons direct, comme ça, la glace est brisée. J'ai un tempérament plutôt assez, comment dire, assez libre, en fait. Je ne m'empêche de rien, je me fais plaisir, et donc, du coup, je pense que ça se ressent un petit peu. J'ai notamment cette histoire de shorts à fleurs en course qui montre que simplement, pourquoi s'empêcher de faire les choses avec plaisir dans des disciplines sportives où peut-être on peut avoir un héritage de le sport c'est sérieux, c'est carré, il faut progresser, on fait ce que dit le coach et tout ça, ce qui est très très bien, mais on peut aussi le faire d'une autre façon qui se correspond à soi-même. Je ne sais pas si c'est très français comme phrase, mais dans les sports endurance, on va être tout seul face à son effort. Le faire selon ce qu'on est, ce qu'on a envie de faire, il me semble que c'est primordial. C'est faisable dans ces sports-là. Voilà, en football, si tu veux mettre un short à fleurs dans ton équipe, ça risquerait de passer mal, quoi.
Ok, et d'ailleurs tu portes un short à fleurs aujourd'hui dans le studio.
Mais tout à fait.
Donc c'est la marque de fabrique de Colin. Et moi je me demandais à quoi ça ressemble une journée type de Colin, si ça existe une journée type.
Waouh. De Colin sportif ou de Colin tout court ?
Eh ben Colin sportif, et puis après on va décliner parce qu'il n'y a pas que le sportif.
Eh ben Colin sportif, ça dépend. Parce que admettons tu es footeux, tu fais des matchs, des entraînements de foot. Moi je fais du triathlon principalement. Mais je fais aussi un peu de trail longue distance, donc c'est courir dans les chemins et la montagne pendant très longtemps. Et en fait, quand tu fais ces sports-là, tu as tout un panel de courses qui fait que selon le moment de l'année, tu ne fais pas la même chose. Par exemple, moi l'été, je fais du triathlon. Selon les objectifs, ça peut être du triathlon qui va durer 2 heures ou du triathlon qui va durer 6 heures, 8 heures, 10 heures. L'hiver, je vais faire soit des crosses, donc un effort de 20 minutes très violent, du 3000 mètres sur piste qui va être un effort de 10 minutes très violent, ça peut être pour le printemps, donc l'entraînement n'est pas du tout le même. Donc en fait, une journée, une période de l'année, tu vas aller rouler 5 heures, le lendemain tu vas faire 3 heures de footing, tu vas être sur des choses très très endurance, et une autre partie de l'année, ça va être des séances de vitesse, de VMA, comme on entend dans le monde du sport, de technique de pied si tu travailles
la course à pied. Pardon, c'est quoi la VMA ?
VMA, vitesse maximale. Aérobique, c'est un terme qu'on entend beaucoup en sport. C'est, en gros, en sport, tu peux travailler l'endurance, ta capacité à tenir longtemps, la force, vitesse, voilà, c'est ce qui concerne la rapidité d'un muscle et sa force brute. La VMA, c'est un peu entre les deux, c'est ta capacité de ton cœur, de tes poumons à tenir un haut régime longtemps. Pour donner une image, c'est ceux qui courent vite sur un 10 km sur route.
La VO2 max ? Ah, c'est un mot qu'on entend des fois quand on parle, quand on suit le vélo. C'est quoi ? C'est la même chose ou c'est encore
En fait, la VMA, c'est la vitesse maximale aérobique. C'est au maximum de ta consommation d'oxygène sans craquer. On regarde la vitesse que tu as. C'est donc la vitesse maximale aérobique. C'est la VMA. La VO2 max, c'est quand on te met des capteurs avec un masque sur le visage et qu'on mesure tes échanges d'air sur un effort. On te fait monter en intensité, monter, et au moment où on observe un palier sur les courbes de mesure, c'est très scientifique, très médical comme méthode.
Mais c'est vrai que c'est des mots qu'on entend quand on suit le sport, quoi.
Ouais, c'est quand on s'intéresse à la partie physiologique, technique, quoi. Et ce VO2 max, c'est le volume d'oxygène qu'on absorbe dans le sang, et donc qui est déterminant pour à peu près tous les sports, mais surtout et beaucoup plus, c'est beaucoup plus visible sur les sports d'endurance. On en parle beaucoup dans le vélo principalement.
Et du coup, tu suis...
Ouais, j'ai même pas répondu à la question.
Carrément. Si, c'est bien. Et on est parfait comme ça. Ouais. Et t'as un coach, du coup, ou t'as un médecin qui te suit, ou comment ça se passe, d'ailleurs ?
Non, encore une fois. Alors, j'essaie de faire des comparaisons pour que les gens s'y retrouvent. Quand on est joueur de foot dans un club, une équipe, on est un onzième de l'équipe. Donc, il faut qu'on compose avec les autres, qu'on compose avec un staff et tout ça. Quand tu fais du sport d'endurance, comme c'est mon cas, où tu choisis ce que tu fais, tu choisis les compétitions, tu choisis quand tu les fais. Personne va t'attendre si tu viens pas à une course, tout le monde s'en fout. Si tu viens que tu gagnes, c'est très bien pour toi, mais dans un sens on s'en fout aussi. Ce que je veux dire, c'est que t'es beaucoup plus libre de tes mouvements, donc il n'y a pas de carcan obligatoire du style si t'as pas d'entraîneur tu ne vas pas y arriver, si t'as pas de club tu vas pas y arriver. On fait ce qu'on veut. Je connais des gens de tous les niveaux qui ont des entraîneurs, des gens de tous les niveaux qui n'ont pas d'entraîneur. Moi, encore une fois, ça va avec mon tempérament. J'aime beaucoup apprendre, découvrir, me tester, et j'aime comprendre par moi-même. C'est mon caractère, voilà. C'est pas forcément ce qu'il faut bien faire. Et du coup, moi, je n'ai pas de coach parce que j'aime tout faire par moi-même.
T'es autodidacte dans toutes ces connaissances que tu as pu accumuler autour du sport, parce que voilà, tu parles de VO2, de VMA, tout ça. T'as bossé un peu tous ces trucs-là. T'as lu des machins ou t'as suivi un parcours là-dedans ou...
Les deux, ça commence toujours par une envie autodidacte, dans le sens où tu découvres une activité que t'aimes bien, tu commences à te renseigner. Moi, j'ai fait fac de sport en plus, donc il se trouvait que j'ai été contenté et nourri sur les matières techniques. C'est pas ce qu'on croit, hein, fac de sport, c'est pas que pour les feignants, on apprend des vraies choses. Et les cours d'anatomie, physiologie, psychologie du sport, biomécanique, tout ça sont passionnants, très, très fournis, donc ça m'a appris beaucoup de choses. Et compléter après avec des lectures personnelles et puis de l'échange, évidemment. Et il y a tout un monde scientifique, en fait, dans le sport, qui est très passionnant.
Moi, ce qui m'intéressait de voir aussi avec toi, c'est que j'ai cru voir que cet été, tu as battu le record de la montée de l'Alpe d'Huez pendant le triathlon de l'Alpe d'Huez. Et quand on regarde un peu les temps même que tu publies parfois sur les réseaux sociaux, sur Strava, par exemple, qui est... une application largement utilisée par plein de sportifs. Enfin, je crois que c'est Strava, mais peu importe. Donc, on voit que tu figures au milieu des Bardet, Contador, sur certains segments. Ça fait plaisir, quoi.
Ah, ben oui, bien sûr. Strava, c'est une application où on entre les fichiers GPS des entraînements qu'on fait. Donc, quand on a une montre GPS ou un téléphone connecté dans la poche. Et le logiciel upload le GPS automatiquement et nous classe sur des segments. Les segments, c'est, par exemple, moi, je vais créer un segment sur Internet de la côte en face de chez moi. Et ensuite, automatiquement, tous les gens qui sont passés depuis que Strava existe, depuis que l'application existe, sont classés sur ce segment. Et donc, si le Tour de France passe sur un segment que tu as créé, tu es classé parmi Contador, Bardet, Roglic, Pogacar, Armstrong. Non, il n'y avait pas Strava de son temps.
Ah, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas passés sur l'Alpe d'Huez dans le Tour de France.
Ouais, ça fait 3 ans, je ne sais
ouais,
pas.
Parce que là, il va falloir avoir une mise à jour des temps.
Tout à fait, ouais. Bon, après, maintenant, les temps sont un peu inférieurs.
C'est vrai,
parce qu'on
a eu des temps de référence.
Années, parce que voilà, les temps de référence sont dans des âges sombres du cyclisme.
Ouais.
Et donc, pour ma part, effectivement, cet été, c'était toute fin juillet, j'ai battu le record sur le triathlon de la montée de l'Alpe d'Huez. Donc, ce qui n'est pas le record de l'Alpe d'Huez, bien sûr. Le record, c'est pour les cyclistes de course de vélo. Donc, pour ma part, c'était. Donc, il y a le triathlon de l'Alpe d'Huez qui est organisé depuis une quinzaine d'années. Et la montée sèche de l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire que le triathlon, il y a natation, vélo, course à pied, mais dans le vélo, on monte l'Alpe d'Huez, il y a un tapis de chronométrage en bas du col, en haut du col, de l'ascension, et du coup, on extrait le temps ensuite. Et c'est vrai que tous les ans, il y a le petit défi de qui va faire le meilleur temps. Et moi, ça faisait un an que je m'étais dit, pourquoi pas aller refaire le triathlon de l'Alpe d'Huez, le format court, il y a un format long aussi, et essayer de battre le record. Donc, c'est chose faite, je suis très content de ça. Donc, en termes de chiffres, moi, j'ai fait 43-22. Le record de Pantani...
C'est 43-22 sur combien de kilomètres? Sur 26?
Non, la montée, c'est 13 kilomètres. La montée sèche, 13 kilomètres. Alors, à 8% de dénivelé moyen. Donc, on prend 1000 mètres d'ascension, je crois, entre le pied du col et le sommet. Et ça fait à peu près 18 km/h de moyenne. Voilà, dans du 8%. Donc, trouvez une côte à 8% près de chez vous, puis testez pour voir ce que ça fait. Mais attendez, la suite, c'est que le record de Pantani doit être de... 36-30 en 99-2000 peut-être dans ces années-là, 98. Et là, on est plutôt sur du 21-22 à l'heure, donc c'est très costaud. Et voilà, et on va dire que allez, sur des années récentes, on a un peu plus confiance sur la nature du sang des coureurs cyclistes. On est sur du 40 minutes 30, donc voilà, ça me met à 3 minutes à peu près d'un peloton.
Justement, alors du coup, une question, t'as jamais pensé à passer pro en vélo ou c'est quoi c'est la filière peut-être qui t'intéresse moins aussi peut-être?
Le vélo, c'est un peu plus compliqué que simplement le triathlon ou la course à pied, les sports que je fais où il suffit de décider, tiens, le week-end prochain, je vais aller faire une course, je m'inscris sur Internet, c'est fait, on m'attend sur la ligne de départ. Le vélo, c'est un sport individuel qui se court en équipe, donc il faut rentrer dans un club, qu'on t'amène sur les courses, tu décides pas forcément de tous, et on te dit, bah tiens, aujourd'hui tu seras coéquipier, aujourd'hui tu seras le sprinter, le grimpeur, je ne sais pas. En fonction de ton profil, on choisit de te sélectionner ou non sur une course s'il y a d'autres gars plus forts que toi. Donc tu fais pas vraiment ce que tu veux, et moi je trouve dommage d'être freiné un peu dans ce que je peux faire. Donc j'ai 27 ans, si je veux m'y mettre, il faut que je m'y mette sans trop tarder. Pourquoi pas? J'ai envie de tester l'année prochaine ce qu'on appelle les cyclosportifs, c'est-à-dire c'est des courses de 100-150 km dans la montagne avec plusieurs cols, avec des athlètes amateurs de très très bon niveau, et ça permet de se situer. Des courses, on est 2000-3000 au départ, on n'est pas obligé de faire la course, mais ceux qui sont devant le font. Donc ça peut être intéressant pour se mesurer. Mais oui, j'aurais peut-être des choses à faire en vélo, je ne sais pas.
Alors du coup, on a parlé pas mal de sport. Alors je tiens aussi à ce que les auditeurs sachent que Colin, il fait aussi de l'athlétisme, du 200 mètres, du 400 mètres. Ouais, alors on voit, si on cherche un peu sur Internet, on trouve. Moi, j'ai regardé. Donc effectivement, on te voit sur un podium en 200 mètres ou une photo où tu as fait le championnat de Bretagne du 400 mètres. Voilà, et tu as pris beaucoup de plaisir, je crois, à faire ça aussi.
Ouais, alors on va nuancer ce que tu viens de dire. Effectivement, j'ai fait du 200 mètres et du 400 mètres sur piste en salle. Je fais ça l'hiver, donc... Petite anecdote, la première fois que j'ai fait ça, un mois avant, je faisais un 100 km de trail dans la montagne. Et un mois plus tard, j'étais sur un 400 mètres chrono sur piste avec le départ dans les starting blocks, comme on voit à la télé. Et oui, encore une fois, c'est dans mon optique de ne rien se refuser. Je trouve ça marrant de faire du sprint départ en starting block. On va me dire, t'es pas bon. Oui, c'est le cas, mais c'est pas grave. Moi, avec un très bon ami, on a une phrase. On se dit tout le temps, vu qu'on sera le meilleur dans rien... autant être moyen dans tout. Comme ça, on peut tester plein de trucs.
Ouais, et puis se faire plaisir, s'autoriser, quoi.
Mais bien sûr. Ouais, si, ça nous fait envie. Moi, j'ai envie de plein de trucs, donc voilà. Et alors, 200, 400 mètres, il se trouve que là, les podiums dont tu parles, c'était parce que dans les catégories adultes, il n'y a plus grand monde parce que c'est un truc de jeune. Et les adultes, au-delà de 25 ans, se disent « Oh là là, ça fait mal, ça !» Donc, j'étais podiumisé dans ma catégorie de vieux, tout simplement.
Ok. Et il y a un sportif en particulier que tu admires ou qui serait un modèle, par exemple?
Je suis pas trop modèle, moi. J'ai jamais été trop modèle. Alors c'est très marrant parce que quand j'étais gamin, il y avait un seul sportif qui me parlait, c'était Lance Armstrong. Ça fait rire Pierry parce qu'il connaît un peu l'histoire du vélo.
Ouais, moi je connais aussi un peu.
C'est devenu un peu.
Je dépasse même le monde du sport.
Et on peut pas dire. Et on peut pas dire cette fois vainqueur du Tour de France, puisque ces Tours de France ne sont plus attribués.
Tout à fait. On ne peut plus dire vainqueur. Vainqueur déchu. Ça correspond encore à cette Tour de France entre 99 et 2005. Oui, moi, c'était dans les années où j'avais entre 5 et 11 ans dans les tours qu'il a gagnés puis qui ont été retirés. Donc, du coup, moi, c'était les années de rêve. Et moi, je sais qu'il y a une grosse partie de moi qui fait du sport aujourd'hui. C'est grâce à Armstrong, c'est bête à dire.
C'est étonnant parce que maintenant, tu es quasiment à l'exact opposé d'Armstrong. Dans ta pratique du sport, manière de voir, c'est ça qui est... Peut-être que c'est quelque chose qui t'a marqué, finalement, d'apprendre que plus tard... ton idole, t'es pas si propre que ça, quoi.
Tu viens de m'éveiller à un truc, c'est que j'ai pas réalisé que ce que je fais est effectivement à l'opposé du mode de fonctionnement, de la pensée d'Armstrong, tout ça. Moi, j'étais attiré par l'effort, le fait de se donner à 100%, le fait d'être déterminé et puis d'accomplir quelque chose, quoi. Même aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé avec Armstrong, j'ai du mal à le voir de façon négative. Moi, je vois quelqu'un qui a eu une vie particulière, un parcours difficile. C'était une période, un système, le vélo. J'ose le dire, j'ai encore de l'admiration pour Armstrong. C'est peut-être plus dans le souvenir, évidemment, aujourd'hui. Parce que l'admiration, pas pour le personnage ou ce qu'il a fait, mais l'admiration pour la figure qui s'en dégage. Juste avant, dans ton émission, tu recevais quelqu'un qui parle de la programmation musicale. Et ben, il y a des artistes qu'on ne connaît pas du tout d'un point de vue personnel, ou comment ils gèrent leur carrière, ou comment ils font de la guitare, ou je ne sais quoi. Mais ce qu'on en retire, ce qu'on connaît, c'est l'artistique. Ouais. C'est quand tu as écouté un album, c'est toi dans une période de ta vie, tous les jours au boulot, un boulot que tu as pu aujourd'hui, t'écouter cet album-là dans la voiture, ça te rappelle quelque chose quand tu le réentends. Mais ça ne correspond pas du tout à l'artiste qui est derrière tout ça. Moi, c'est un peu dans ce sens-là aussi que je continue d'apprécier Armstrong.
On apprécie ton franc-parler aussi.
J'explique, quoi, voilà.
Carrément. Et alors, tu ne fais pas que du sport en short à fleurs, parce que je constate aussi que tu relooks des vélos, notamment. Donc, c'est une partie de tes activités aussi, donc professionnelles. Donc, les gens peuvent t'amener un vélo, et puis toi, tu le relooks pour eux, par exemple, c'est ça le principe ?
Mais complètement, complètement. Alors, c'est plutôt dans des milieux cyclistes confirmés, triathlètes confirmés, parce que ça coûte un certain budget de faire repeindre son vélo. C'est comme les gens connaissent la carrosserie en voiture. C'est la même technique, les mêmes outils, les mêmes procédés. Donc, on ponce un vélo, on le repeint, on le vernit, puis après, c'est solide.
Il y a plein de vidéos, d'ailleurs, hein, qu'on peut voir sur Internet.
Tout à fait, ouais. Quand on tape mon nom, Colin Arros, sur YouTube, on trouve les vidéos. Et donc, c'est un travail qui dure assez longtemps, qui est très technique, qui est très, très délicat, très précis. Donc, c'est un boulot que je fais en artisanat à la maison, qui me permet d'être encore plus dans le monde du sport, parce que voilà, j'interagis avec des sportifs pour m'occuper de leur vélo. Donc, ça me correspond, ça me va. Et ça permet de combler un peu, moi aussi, une autre partie de ma vie personnelle, que j'aimais bien faire des choses un peu plus artistiques, visuelles, de dessin, tout ça. Donc,
tu t'es formé, d'ailleurs, parce que je vois que tu fais des pochoirs, que tu mets sur les cadres, que tu peins après. Donc, tu as dû faire une formation à un moment donné pour savoir faire tout ça.
Bah, pas du tout, encore une fois. C'est un caractère. Moi, j'ai toujours habité à la campagne. Les potes habitaient assez loin. Donc, je ne les voyais pas trop souvent. Donc, quand je rentrais chez moi le soir ou le week-end, bah, c'était activité dessin, c'était activité... création, on allait dans la nature chercher des... Puis j'étais un peu tout seul, voilà, c'est mon caractère, d'apprendre à apprendre aussi. Tu vois, je me suis dit, tiens, dessiner, c'est cool, je vais apprendre moi à le faire tout seul. Et donc voilà, mais je pense que quand tu passes du temps dans quelque chose et que tu t'impliques même sans être à fond, sans se mettre la pression, ça aboutit forcément à quelque chose, parce que si ça te fait envie, bah, tu vas apprendre les techniques, tu vas progresser toi-même, et c'est pareil dans tout. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de talent inné. Je ne suis pas un très bon dessinateur. C'est juste que j'aime le vélo, j'aime bien décorer des vélos. Forcément, j'arrive à trouver des petites choses qui plaisent aux gens. Et voilà, le but final, c'est ça. Quand ça fait plaisir aux gens, c'est bon.
Ouais, parce que en fait, alors on peut continuer à dérouler un petit peu hein, sur le personnage, parce que tu as cette activité-là. J'ai vu d'ailleurs que tu fais des instruments de musique aussi. Enfin, tu sais jouer un peu de musique, parce qu'on voit dans des vidéos ou dans des relookages de relooking de guitare, ou même que tu voilà, parce que tu as aussi une activité de où tu fais des vidéos promotionnelles, par exemple, où tu as une boîte de production de vidéos aussi avec un collègue. Donc tu as 27 ans, hein, c'est ça, tu as déjà fait tout ça, donc tu fais ça aussi. Et je vois que tu mêles donc la danse, plein de choses que tu fais, le vélo, la musique, la vidéo. Donc peut-être tu peux nous en dire plus.
Le prochain CD de Colin Arros. Programmé à la Valveur, non, c'est pas. Non, effectivement, pareil. Ben, c'est toujours la même chose. Hein. On va retomber sur le même principe. C'est que à la maison, il y avait une guitare. Je me dis, tiens, c'est marrant une guitare si j'apprenais à en jouer. Puis j'y passe du temps et ça me fait plaisir parce que tout le monde aime des morceaux. On a tous un morceau qu'on aime avec la guitare dedans. Donc je répète un morceau que j'aime bien, puis deux, puis trois, puis j'apprends les techniques. Puis voilà. Puis un jour je me dis, bah tiens, la batterie, ça a l'air sympa aussi. On va essayer la batterie, la basse, etc. C'est toujours la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Je suis bon dans aucun instrument, je suis moyen dans tout. Mais c'est plus le plaisir d'en faire. Alors oui, j'arrive à faire un peu de musique. Mais donc voilà, j'arrive à, encore une fois, à mêler. La musique, le dessin, le vélo, tout ça. Et donc avec mes vidéos de vélo qui me font la promotion pour mon métier de peintre de vélo. Je fais des vidéos pour qu'on me connaisse, donc je fais un peu les musiques des vidéos et tout ça. Ça reste très amateur. Bien sûr. Et puis voilà, à côté j'ai une autre activité où on fait des vidéos professionnelles. Donc j'ai encore la possibilité de mêler un peu tout ce que je peux savoir faire. Voilà, tout simplement.
Ouais, au niveau de ton actualité, c'est quoi les prochaines échéances, les prochains objectifs que tu t'es fixés ?
Actualité sportive, on est toujours dans les années Covid, donc ça reste compliqué.
Ouais, justement, est-ce que ça a repris un semblant de vie là ? Est-ce que les compétitions, les compétitions professionnelles, on sait que c'est bien reparti, plus ou moins.
Ouais, plus ou moins. Bah alors, dans ce qui me concerne, le triathlon, il y avait le championnat du monde 2020. Donc il y en a un par an, comme dans plein de sports, avait été repoussé. Donc c'était octobre 2020 à octobre 2021. Donc les athlètes qui y allaient étaient chauds bouillants. Hein. Moi, je n'y allais pas. Ça vient d'être repoussé encore parce que c'est à Hawaï. Et à Hawaï, il y a une flambée d'épidémie, donc ça a été repoussé. Donc tu vois qu'en triathlon, non, c'est pas revenu à la normale. Par contre, au niveau local, oui, maintenant avec soit le pass sanitaire, soit le fait de pas prendre trop de gens au départ ou d'avoir les masques, on s'en sort très bien. J'ai fait quelques courses comme ça avec un protocole sanitaire. Une fois qu'on est dans la course, il n'y a aucun changement. Il y a le même nom, même gens, tout ça, tout le monde est entraîné, il n'y a pas de souci. Donc l'actualité, moi je fais un relais sur l'année. L'été c'est plutôt triathlon, trail, pour profiter simplement du beau temps, de la montagne, de l'été, tout ça. Et puis l'hiver, quand il fait froid, il pleut, bah, c'est plutôt en salle. Donc je vais reprendre un peu la natation, j'espère. Et sinon ça va être les compétitions d'athlétisme, j'aimerais bien. Peut-être du 200 mètres, 400 mètres, ça c'est pour le kiff, mais non, du 3000 mètres en salle, voilà, des choses qui me correspondent plus à mon profil.
C'est toujours fou, donc quand t'entends parler, quoi, parce que je sais pas si l'auditeur peut s'imaginer que tu passes d'un sport où l'explosivité est prépondérante sur le 200, faut savoir gicler sur le coup de feu, et sur un 3000 mètres. C'est complètement, c'est de l'endurance et explosivité. Quoi.
Ouais. Bientôt le décathlon, quoi, aussi, avec
Kevin
Mayer. Ah,
je rêverais de faire du décathlon, mais bon, là, soyons réalistes.
On s'est dit avec Pierre-Yves, si on lui demande c'est quoi son athlète ou en quelque chose d'avenir, on s'est dit Kevin Mayer. Il y a un petit côté Kevin Mayer, quand même.
Tiens, tu me demandais tout à l'heure quel sportif j'aime bien. Aujourd'hui, j'aime énormément Kevin Mayer. C'est un des sportifs que j'aime le plus, qui a beaucoup évolué, que en bien, et qui aujourd'hui est un athlète hyper inspirant, qui fait un peu de tout, effectivement. Donc, ça me parle.
Je te coupe, mais qui a aussi cette approche-là, parce que lui, en fait, s'il ne prend pas de plaisir dans une compétition, finalement, elle n'a pas beaucoup de sens qu'il soit premier ou dernier. Ce qu'il veut, lui, c'est prendre du plaisir. Et j'ai cru voir que tu as un peu cette philosophie-là aussi, de te dire que même si tu ne finis pas premier, si tu as été toi dans ton schéma et ce que tu aimes faire et que tu as pris du plaisir, finalement, ça te va autant que la victoire.
Mais tout à fait, ça m'est arrivé de faire des courses. Bah, par exemple, il y a des gens autour de moi n'ont pas trop compris. Je faisais du triathlon, plutôt à bon niveau. Et d'un coup, je me suis dit, oh, tiens, je vais aller faire de l'ultra-trail, donc des courses de très longue distance, seulement en course à pied, qui est mon point faible en triathlon, entre la natation, le vélo et la course à pied. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé de faire 10, 15 podiums par an sur triathlon, à faire des trails où je finissais 3 centièmes sur 1000, 5 centièmes. On se dit, mais c'est bête, t'es bon dans un sport, mais c'est parce que ça m'intéressait de découvrir un autre effort, de voir comment je peux progresser dans un truc que je ne sais pas encore faire. Quand on faisait la comparaison avec Kevin Mayer, lui, c'est le meilleur du monde dans son sport, et il fait 10 sports où il est excellent. Mais la philosophie, l'état d'esprit de se dire, j'ai envie de prendre du plaisir, oui, évidemment, on a déjà tous un boulot, il y a des choses compliquées dans la vie. Si en plus en sport, il faut se remettre une dose de... Allez, il faut être sérieux, il faut être... C'est pas, j'allais dire, discipliné, non, parce que ça peut avoir
mais
de la bonne discipline.
Mais c'est aussi le quotidien de beaucoup de triathlètes locaux aussi.
De quoi donc
de le faire aussi avec un peu quand même de souffrance. Je veux dire, tu fais de l'ultra, c'est pas que du plaisir non plus.
Ah mais pas du tout. Non, faut distinguer la douleur physique de la pénibilité. Quand on fait une course d'endurance, y a une bonne moitié, voire les trois quarts, où ça se fait avec des douleurs musculaires ou pulmonaires. On est fatigué, on est en manque de sucre, on est fatigué. Donc il y a de la douleur physique. Mais la pénibilité, c'est par exemple quand on fait quelque chose qu'on n'a pas envie, on est contraint. Il y a plein de choses comme ça dans la vie. Donc le sport, on peut s'y investir par l'effort le plus possible. Enfin, c'est ma vision des choses. On peut se faire très 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 mal dans un sens physique, mais à aucun moment c'est pénible, parce qu'on sait pourquoi on est là, on l'a décidé tout seul, on sait qu'au bout il y a un objectif d'accomplissement, on va passer une ligne d'arrivée, on va être content, tout le monde va être content pour nous, donc toute la douleur qu'on peut ressentir se transforme en plaisir, et pendant qu'on la ressent, on se dit oui mais je sais pourquoi je la fais, et ça ne participe qu'à de très bonnes choses.
Une petite dernière question, Fred.
Ouais, moi je me posais une question. Est-ce qu'aujourd'hui tu es sponsorisé ou est-ce que tu représentes une marque ou même des associations, par exemple, dans lesquelles tu peux t'investir ou tu pourrais t'investir éventuellement ?
Alors moi, non. Il se trouve que non. J'ai eu un peu par le passé. C'est encore une fois une question de comment on se place par rapport à ça. Forcément, si demain on me dit « Tiens Colin, tu vas faire 15 triathlons par an, on veut que tu sois sur le podium, en échange on te file tant d'argent, on te file un vélo, du matériel, tout ça », c'est pas le même rapport à ton sport, on t'est attendu, tu te prépares en conséquence, je reprends la métaphore du foot parce que c'est ce qui va le plus parler aux gens, quand on est footeux, on a un contrat papier avec avocat signé, on est attablé, tout le monde est d'accord. Obligation de résultat, les termes de contrat sont définis, si je suis blessé, si je ne suis pas performant, qu'est-ce qui se passe ? Dans les sports endurance, c'est un choix. Si on veut que ça reste plaisant, si on veut que ça reste quelque chose qu'on fait dans la vie pour s'évader, pour se prendre l'air le week-end et tout ça, pour retrouver les potes sur les compétitions, est-ce qu'on a envie de se mettre un facteur supplémentaire de pression, on attend de moi du résultat, de la performance ? À chacun de se positionner par rapport à ça. Moi, je trouvais ça dommage, donc j'ai préféré pas trop rentrer dans ce système-là.
Eh bien, merci beaucoup à vous. Je crois que pour une première, débuter avec Colin, c'était très bien. On rappelle, Colin Arose, triathlète, mais pas que, on va dire ça comme ça.
Et pas que. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un plaisir à chaque fois que je viens là. Donc, si je reviens, ça sera encore un, pla-